Précisément 18h sur France Culture, le journal Marc Potevin. Bonsoir Marc.
Bonsoir à toutes et à tous. Le président de l'Égypte est arrivé à Paris ce soir. Visite d'État jusqu'à mardi avec notamment un entretien avec Emmanuel Macron. Visite qui indigne plusieurs ONG qui pointent des atteintes aux droits de l'homme en Égypte. Nous y revenons dans un instant. Des voitures incendiées, du mobilier urbain saccagé, des vitres endommagées. Les images de la manifestation parisienne contre la proposition de loi sécurité globale sont encore commentés aujourd'hui, cible des critiques, entre autres les Black Blocs. Dans ce journal, nous nous intéresserons aussi au difficile exercice du métier de journaliste au Mexique. Les violences contre les reporters se sont accentuées ces derniers temps. Certains de ces reporters, comme Regina Martinez, ont même perdu la vie. Elle est au cœur de révélations que nous détaillons dans quelques minutes. Et puis la livraison venue de l'espace a bien été réceptionnée. Une capsule qui s'est détachée d'une sonde japonaise à l'intérieur des échantillons d'un astéroïde. Il pourrait, ces échantillons, nous renseigner sur la naissance de notre univers. Le président égyptien dîne ce soir avec le ministre des Affaires étrangères. Premier rendez-vous dans le cadre de sa visite d'État en France jusqu'à mardi. Le programme prévoit aussi une procession militaire des Invalides à l'Élysée, le palais présidentiel où Abdel Fattah al-Sissi sera reçu demain par Emmanuel Macron. Autant d'honneurs qui scandalisent plusieurs ONG. La Fédération internationale des droits humains demande ainsi à la France d'arrêter les ventes d'armes à l'Égypte au risque de se retrouver complice de la répression sur place. Les ventes d'armes qui restent un sujet important dans la relation entre les deux pays, Bertrand Galichet.
Si l'Égypte a été l'un des meilleurs clients de la France en matière d'armement, la situation a beaucoup changé ces dernières années. Il y a 5 ans, les Égyptiens avaient signé des contrats impressionnants en achetant 24 avions de guerre Rafale et 2 navires de type Mistral que la France devait initialement livrer à la Russie. Depuis, l'Égypte n'a pas procédé à des acquisitions spectaculaires auprès des industriels français de l'armement. La venue de Abdel Fattah el-Sissi permettra-t-elle à la France de retrouver une place importante parmi les fournisseurs de l'Égypte? Aucun accord d'envergure militaire ou civile ne devrait être annoncé lors de cette visite d'État, mais les contrats en cours se poursuivent, de même que la coopération stratégique en matière de défense. Les deux pays partagent aussi une même ligne politique à propos de la Turquie, sur la question de la Libye et de la Méditerranée orientale, autant d'éléments qui pèsent lourd face au dossier des droits de l'homme en Égypte. Emmanuel Macron en avait parlé lors de sa visite au Caire en janvier 2019, et s'était fait sèchement recadrer par le président égyptien. Le sujet devrait être à nouveau abordé pour resserrer les liens avec l'Égypte. Le président français dispose d'un atout, Jean-Yves Le Drian, qui entretient depuis longtemps une très bonne relation avec le chef de l'État égyptien.
Bertrand Galichet, dans quelques minutes, dans Soft Power, vous revenez, Frédéric Martel, sur la situation en Égypte.
Oui, je reçois notamment l'opposant égyptien Alaa Al-Aswani, qui est un écrivain connu notamment pour l'immeuble Yacoubian, ou plus récemment ce livre qui vient de paraître, Le syndrome de la dictature. La suite du journal, Marc Potvin.
De nouvelles réactions au lendemain de la manifestation à Paris contre la proposition de loi sécurité globale. Manifestation marquée par des scènes de vandalisme. La maire de Paris, Anne Hidalgo, condamne fermement les violences commises par des casseurs. Le chef de file des sénateurs LR, Bruno Retailleau, préconise lui la création dans la police de brigades anti-black bloc. Des black blocs à la stratégie bien rodée, explique le sociologue Fabien Jobard.
Les black blocs qui ont réagi en particulier hier soir s'inscrivent dans une longue tradition qui a un siècle, qui est la tradition de l'activisme contre les policiers, en particulier contre la police, et le refus de voir les organisations syndicales, et encore moins évidemment les partis politiques, prendre en main les cortèges manifestants. Le refus de coopérer, le refus d'avoir des services d'ordre syndicaux qui tempèrent la violence policière. Ils ont un but, pousser l'État à la faute, pousser la police à la faute. Faire en sorte que vos confrères de la télé puissent avoir des images de gens matraqués au sol. Si les Black Blocs poussent la police à la faute et obtiennent ces images-là, ils ont gagné. Si, au contraire, ils doivent s'affronter à deux fronts, les organisations syndicales d'un côté, les policiers de l'autre, ils ont perdu. c'est-à-dire ils sont totalement isolés. La stratégie de maintien de l'ordre efficace vis-à-vis des Black Blocs, c'est la stratégie de maintien de l'ordre qui voit les manifestants revenir en étant convaincus que les Black Blocs ont gâché leur manifestation, et non pas que la police a gâché leur manifestation.
Le sociologue Fabien Jobard, auteur de Politique du désordre, la police des manifestations en France, il répondait à Laura Dulieu. Quant au collectif qui rassemble journalistes, syndicats et ONG et qui est à l'origine de la contestation contre la proposition de loi sécurité globale, il appelle ce soir à poursuivre la mobilisation jusqu'au retrait. La France prendra sa part à la fabrication de vaccins contre le coronavirus. Sur les 6 qui sont négociés, 3 seront en partie ou complètement produits dans le pays, explique la ministre de l'Industrie. Nous ne sommes ni dans la célébration béate du vaccin, ni dans la défiance, martèle Agnès Pannier-Runacher, qui anime aussi la force d'intervention interministérielle consacrée au vaccin contre le coronavirus. 18h06 sur France Culture, nous en venons à cette enquête sur les violences meurtrières dont sont victimes les journalistes au Mexique. C'est le projet Cartel, œuvre du consortium Forbidden Stories et de 25 médias partenaires, dont la cellule investigation de Radio France, cellule dont vous faites partie, Adela Khalidrissi, bonsoir.
Bonsoir.
C'est la troisième année que Forbidden Stories s'attelle à reprendre les enquêtes de journalistes menacés ou assassinés. Cette fois-ci, au vu de la situation sur place, le Mexique s'est imposé comme une évidence.
Oui, une situation dramatique là-bas pour un pays qui n'est pas en guerre. 119 journalistes sont morts depuis l'an 2000. Cette violence s'est accentuée ces derniers temps. Elle est le fait alors de cartels de la drogue qui sont devenus hégémoniques dans certains états du pays. Mais la menace vient aussi d'une partie du personnel politique corrompu par les trafiquants de drogue. Et cette narco-politique a instauré un véritable climat de terreur qui alimente un sentiment d'impunité dans plus de 90% des affaires de meurtre de journalistes, les auteurs et surtout les commanditaires des assassinats ne sont jamais inquiétés.
Et parmi les journalistes, vous vous êtes intéressé, Abdelak, à un cas emblématique, c'est celui de Regina Martinez.
Regina Martinez, qui est morte en 2012, retrouvée étranglée dans sa salle de bain. Jusqu'à cette date de 2012, les journalistes assassinés travaillaient surtout pour des médias locaux. Mais Regina Martinez, elle, était la correspondante d'un journal national, Proceso. Avec sa mort, les cartels ont envoyé un message très fort. Plus aucun journaliste n'est à l'abri. Et effectivement, depuis cette date, beaucoup d'autres journalistes de médias nationaux sont morts à cause de leur travail.
Et cette affaire, Regina Martinez, elle est également emblématique de la défaillance des autorités locales mexicaines.
Oui, l'enquête officielle menée par les autorités locales a rapidement conclu à un cambriolage qui aurait mal tourné. Un suspect, analphabète et malade, a avoué, sous la torture, mais jamais l'enquête ne s'est intéressée au travail journalistique de Regina Martinez, notamment un travail qui a porté sur la corruption au plus haut niveau de l'État du Veracruz. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'elle s'apprêtait, quelques semaines seulement avant sa mort, à faire des révélations sur un autre sujet embarrassant pour le pouvoir local, la question des disparitions massives de civils et les charniers dans l'État du Veracruz. Il y a quelques jours, l'actuel président mexicain s'est dit favorable à la réouverture du dossier Regina Martinez pour qu'une enquête indépendante soit menée.
Abdelak El Idrissi de la cellule Investigation de Radio France, projet Cartel, c'est une enquête internationale à retrouver dès maintenant sur franceculture.fr. Si la sonde japonaise Hayabusa 2 poursuit sa course dans l'espace, la capsule qui s'en est détachée, elle, a bien été récupérée dans le désert australien ces dernières heures. Le chef de projet de la mission la qualifie de boîte au trésor. À l'intérieur, il y a en effet des échantillons prélevés sur un lointain astéroïde et qui sont effectivement très précieux, explique l'astronome Patrick Michel.
Ces échantillons, on le pense en tout cas, ont gardé la mémoire de la composition initiale des ingrédients qui étaient présents dans le système solaire avant même que les planètes se forment. Donc en quelque sorte, on remonte le temps, on veut comprendre quelle était cette soupe dans laquelle baignaient eh bien, les petits matériaux qu'on finit par faire des planètes, et donc on veut pouvoir eh bien, remonter à la meilleure recette de cuisine qui permet de fabriquer les planètes. Et le problème, c'est que dans les planètes, eh bien, ces ingrédients ont perdu la mémoire de leur composition initiale parce que les planètes ont chauffé, elles se sont transformées chimiquement, et le matériau le plus ancien est relativement récent par rapport à la formation du système solaire. Et ces astéroïdes sont suffisamment petits pour ne pas avoir chauffé, et donc, comme ce sont les restes débris qui ont formé les planètes, eh bien, ils vont nous renseigner sur quelle était la composition initiale de la nébuleuse dans laquelle les planètes sont formées. Les échantillons qu'on va ramener, on l'espère, sont riches en matière organique, la matière qui constitue le vivant, et on voudrait comprendre le rôle qu'ont eu les astéroïdes effectivement dans l'émergence du vivant sur Terre, parce qu'à la fin de la formation de la Terre, il y a eu beaucoup d'impacts d'astéroïdes et ils pourraient avoir amené tout le matériau et les ingrédients qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre.
L'astronome Patrick Michel avec Frédéric Barrère. Le temps demain matin, globalement maussade et froid, température maximale de 2 dans le nord à 15 dans la Corse. En Corse.